Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International, ravi de vous retrouver. On s'était dit ce matin avec David Finzel et Laurent Salerno, tiens, la dame prend congé et doc, d'un coup, plus d'actu foot ce week-end, mince, de quoi on va bien pouvoir causer, mais ça n'a pas duré. La planète foot, vous le savez, n'arrête jamais de tourner. Et comme un certain Nicolas Dupuis, ci-devant sélectionneur d'une sélection malgache qui vient de créer l'exploit de se qualifier pour la première fois à une phase finale de Cannes, puisque cet homme-là nous a dit, bah oui, je veux bien être en direct de Tana pour vous raconter tout ça, les gars. Eh ben alors, c'était parti. Du coup, celui qui un jour aurait voulu, non pas être un artiste, ça se saurait, mais un baréa, nous a confirmé qu'il était dispo, lui aussi. Alors, la banco. Bonjour, Eric Ravessandratana.
Bonjour, Olivier. Bonjour à tous.
Hein, vous avez voulu?
Ah bah oui,
j'ai voulu, puis,
officiellement
ça.
Non.
Ça va être sympa, on va citer les 23 noms de joueurs malgaches, un à un.
Bonne
le
chance.
Premier qui fourche à un gage. Bref, beaucoup à dire et à redire sur cette historique qualification. Autre sujet que l'actualité de ces derniers jours ne nous avait pas permis de traiter, Titi Auberkaye. Thierry Henry revient chez lui, enfin là où il a tout appris, ou plutôt commencé à tout apprendre. Le champion du monde et d'Europe, buteur emblématique des Gunners, a été intronisé hier sur le banc de Monaco. Bonne idée ou pas, risqué ou pas, on va se régaler ou pas, pour en parler ou pas, Naïm Meunier.
Salut Olivier, salut à tous.
C'est tombé sur vous.
Je parle de tout ce que vous voulez, moi.
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on vous dit de venir. Enfin, en fin d'émission, et là, je vous l'accorde, c'est pas funky, mais universel et nécessaire, on va causer supporters. Avec cette menace qui plane sur le Paris Saint-Germain, depuis les débordements post-match contre l'Étoile Rouge de Belgrade, l'UEFA peut-elle sanctionner le club d'un huis clos total ou partiel, genre dans 6 jours, tiens, face à Naples, au Parc des Princes, ou plus généralement, on fait quoi et comment pour encadrer tous ces gens? Peut-on tout simplement faire quelque chose? Sans eux, pas d'ambiance. Avec eux, ambiance, mais aussi fumigène, voire bagarre. Et chez nous, le bagarreur, le bad boy, c'est lui, Etienne Moati. Bonjour.
Bonjour à tous.
Il est bien calme pour le moment. Oui. Et puis, pour avoir un contrepoids, on a aussi invité un témoin qui bosse dans un club qui réussit à avoir des supporters, mais pas d'ambiance. François David.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Correspondant à Barcelone, de passage à Paris. Allez, on y va.
I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it.
Le programmateur musical s'appelle David Finzel chez nous. L'orchestration, c'est signé bien sûr Laurent Salerno. I like to move it. Comprend qui peut, qui a
bizarre,
des enfants
tiens,
plutôt
oui.
Jeunes ou ados. Peut-être c'est le cas de tout le monde. Un film référence côté dessin animé et bientôt évidemment une référence en matière de foot. Madagascar, 106e au classement FIFA, 187e il y a 5 ans seulement. La grande île est devenue mardi soir le 40e pays du continent à se qualifier pour la Cannes, pour une Cannes en général, à la faveur d'un succès 1-0 sur la Guinée équatoriale. Les Baréas, les bœufs sauvages en français, vaut mieux le dire en malgache, hein, finalement c'est plus sympa. Ils sont assurés de prendre l'une des deux premières places du groupe A avec le Sénégal, à qui ils disputeront la tête lors des deux dernières journées face au Soudan le 16 novembre, puis à Dakar en mars. Et celui qui n'est pas pour rien dans cette affaire, c'est le sélectionneur. Il est français, il a 50 ans, en poste depuis 18 mois. Et il est là, dans le hall de son hôtel, figurez-vous, à Tana, téléphone en main. Bonjour Nicolas Dupuis.
Bonjour à tous.
On est ravis de vous accueillir. Comment ça va?
Très bien. On récupère un peu de la fête faite après le beau match qu'on a pu jouer à Tana contre la Guinée.
Quel exploit vous avez réussi là? On n'a pas fini de vous en reparler. Il faut vite rentrer à Paris, sinon vous allez avoir les tympans qui vont exploser.
C'est prévu ce soir pour le retour à Paris. Quel exploit, oui, un bel exploit, et on est fiers d'avoir fait plaisir et de faire plaisir au peuple malgache, c'est clair.
On rappelle que depuis votre arrivée, vous n'avez perdu face à aucune équipe du continent africain. Et vous êtes là depuis 18 mois, c'est quand même déjà une performance, on n'aurait jamais imaginé ça de la grande île, même si on connaît la passion qu'il y a là-bas pour le football.
Oui, effectivement, on n'a jamais perdu contre une équipe africaine. On a simplement perdu contre le Kosovo dans un match difficile sur la région parisienne, un match de préparation, un match amical, organisé par mon ami Louvre. Et Effectivement, alors on s'en était même pas rendu compte et on en a parlé avec les joueurs avant-hier, justement avant ce match contre la Guinée. Et c'était bien de continuer cette série.
Alors, le match, racontez-nous un petit peu. Alors, il y a une victoire 1-0, un but de JV Rakoutou Harimalal. Ok les gars, j'ai ouvert le bal, hein, je me suis pas planté. Ouais. On va voir si les autres se débrouillent. Il joue en Thaïlande, c'est le héros, mais c'est l'ensemble de l'équipe. Ça a été phénoménal, j'imagine, côté ambiance, pendant toute la durée de la rencontre.
Oui, alors déjà, une rencontre ne suffit pas pour se qualifier. On a commencé par un tour préliminaire en mars 2017 à Sao Tomé, un aller-retour qu'il fallait à tout prix passer parce que à l'époque on était 146e FIFA quand j'ai pris l'équipe, je crois, un truc comme ça. Et il fallait à tout prix passer par ce tour préliminaire pour se qualifier pour les phases de groupe. Ça a été fait avec 2 victoires. Et ensuite, on a su qu'on allait tomber, dans le groupe du Sénégal. Donc, c'était foutu d'avance. Et puis, Rabat, le symposium, la décision du président Hamad et de des gens qui travaillent avec lui de mettre 2 équipes par poule. Et là, j'ai envoyé tout de suite un message à mes joueurs en disant « Ah, ce coup-ci, c'est possible ». Donc, on a commencé par le Soudan. On a battu le Soudan 3-1 au Soudan. Un match où on a peiné, mais le Soudan n'avait pas perdu chez lui depuis 15 ans. Et on a enchaîné. On a enchaîné, mais bizarrement, il a fallu attendre 14 mois pour refaire un match officiel. Donc, heureusement que Louvre et Alefa Barea nous ont fait faire 4 matchs de préparation, la plupart à Paris, 1 en Ouganda et 3 à Paris. Et puis au Sénégal, match nul il y a un mois, et puis cette double confrontation ce mois-ci contre la Guinée, un match difficile en Guinée qu'on gagne 1-0, en étant sérieux, rigoureux, mais pas géniaux du tout au niveau de la possession. Et puis ce match à Tana, où il y a eu un peu de folie, où il y a les supporters ont joué leur rôle de 12e homme, et là où notre victoire est amplement méritée.
Voilà. Alors, des esprits chagrins pourraient dire, oui, c'est parce que la CAN est passée de 16 à 24, mais en même temps, vous êtes devancé pour l'instant par le Sénégal, à la différence de but, je vois Naïm Meunier qui réagit, vous serez peut-être premier du groupe, donc finalement, peut-être qu'avec une CAN à 16 équipes, vous y seriez aussi.
On est passé à l'Euro à 24, il y a des équipes qui ne sont pas qualifiées.
Allez-y.
C'est notre objectif, pardon, excusez-moi.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, je vous en prie. C'est notre objectif, effectivement. Bon, on aimerait bien jouer une finale à Dakar en mars prochain. Avant ça, on doit recevoir le Soudan en novembre, alors que le Sénégal se déplace dans un match très difficile en Guinée. Pourquoi pas jouer une finale à Dakar, même si, attendez, on a beaucoup de respect pour le Sénégal et c'est la première équipe africaine du moment. Donc ce sera pas facile. Quand bien même on aura un mauvais résultat à Dakar, il faudrait regarder. Effectivement, on pourrait terminer dans les 4 meilleurs deuxièmes.
Avant de donner la parole notamment à Eric Rabessandra Tala, parce que c'est quand même le plus malgache de nous tous, hein, je pense que ça se voit, ça s'entend surtout. Il y a eu des grosses festivités hier, vous avez été reçu au Palais d'État, il y a eu bien sûr des primes et tout ça est bien normal, cela aussi. L'après-coup, ça devait être sympa, hein. Vous n'avez pas dû beaucoup dormir dans la nuit qui a suivi le match.
On a été invité bizarrement, non pas par la fédération qui n'a rien fait, mais voilà, c'est une façon d'être un peu particulière, mais par des amis, par des partenaires, par des gens qui aiment le football. On a été reçus déjà le soir même du match par ces gens-là, et ça a été très sympa. Et donc effectivement, on a eu le plaisir d'être reçu par le chef de l'État, donc président par intérim, puisque ici il y a des élections qui sont prévues et le chef de l'État n'est plus en place. Hier avec tout le gouvernement, et c'est vrai que les joueurs ont pu gagner une prime importante pour Madagascar, et j'en suis super content pour eux.
Justement, est-ce que c'est le climat politique et les tensions qui peuvent l'accompagner qui expliquent, on a entendu dire qu'à votre sortie du stade, le bus avait été plus ou moins tombé dans une embuscade tendue par des jeunes, qu'il y avait eu un caillassage?
Alors j'ai reçu ces jeunes ce matin, ils m'ont demandé une audience, je les ai reçus moi à l'hôtel. Ils sont venus d'abord s'excuser en nous disant que c'était pas eux, et je les crois volontiers, ce sont des jeunes de Polytechnique. Apparemment, ce sont des gens qui se sont mis et mélangés avec eux, qui nous ont effectivement jeté des pierres sur la voiture et sur le bus. Bon, l'incident est clos, on n'en reparle plus, c'est comme ça. J'ai fait avec le capitaine Faneva un document qui atteste du fait qu'on les croit totalement, qu'on les soutient totalement, il n'y a pas d'électricité. À l'endroit où ça s'est passé depuis 3 mois maintenant, alors qu'ils sont étudiants, c'est pas facile. Mais encore une fois, ils nous ont expliqué que c'était pas eux, et je les crois volontiers, et j'ai envie de les croire.
D'accord. Donc, si vous dites que l'incident est clos, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. En revanche, il y a des raisons de demander à Eric Rabesandratana ce qu'il pense de tout ça, lui qui a failli jouer un jour pour Madagascar.
Ouais, il y a bien longtemps. Bonjour Nicolas, félicitations tout d'abord.
Bonjour Eric.
Je sais que c'était quelque chose, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, cet exploit. Ça n'est jamais arrivé. Donc, et c'est un travail de longue haleine qu'il a réalisé. Il l'a dit, hein, il a perdu contre aucune équipe africaine, ce qui est quand même un exploit de nos jours. Et je tenais à le féliciter pour ça et lui rappeler surtout la fierté. Mais voilà, de toute façon, il n'a pas besoin de moi. Je sais qu'il est sur place et que j'imagine bien qu'on l'a bien fêté et qu'on l'a honoré pour cet exploit. Alors lui et les joueurs, bien sûr, mais voilà, je vais juste simplement le féliciter et lui dire un grand bravo.
Naïm Moniol a une question pour vous aussi.
Oui,
Nicolas.
Bonjour coach. D'abord, bravo pour votre qualification. Moi, il y a quelque chose qui me bluffe dans votre équipe, c'est qu'en Afrique, on pointe souvent du doigt les difficultés à faire coexister joueurs locaux et binationaux. Et vous avez réussi quand même un truc assez incroyable, c'est que non seulement vous y arrivez, mais en plus de ça, vous arrivez à faire cohabiter dans une même équipe des paysages footballistiques assez fous. Vous avez évidemment les joueurs locaux. Alors, on a des joueurs qui évoluent dans des clubs professionnels comme Reims, comme Troyes, comme Charleroi, mais aussi des joueurs qui jouent en Thaïlande et puis des joueurs qui jouent dans le foot amateur, au Gobelin, à Arras, à Marseille, Consola devenu Atlético Marseille. C'est quoi en fait la formule pour arriver à faire cohabiter dans une équipe tous ces paysages footballistiques différents? Parce que la fibre patriotique, c'est vrai que c'est une chose et tant mieux, mais il y a aussi la réalité du football qui fait que quand on a autant de joueurs issus de culture tactique et de paysages footballistiques aussi différents, c'est compliqué d'avoir des résultats et vous y arrivez. Donc comment est-ce que vous faites?
Alors d'abord parce que j'habite au moins à moitié en France, premièrement, et que je vais voir les joueurs tout le temps. Qu'on reste en contact systématiquement. Deuxièmement, parce qu'on a eu la chance, j'ai dit tout à l'heure, d'être aidé par un ami qui nous a permis de faire 3 matchs de préparation en France, à Paris, et un en Ouganda. Donc en multipliant, ce qui n'avait jamais été le cas à Madagascar, pour Madagascar, en multipliant les matchs, forcément, on a plus de repères. Troisièmement, en m'appuyant toujours quasiment sur le même groupe, dans un groupe restreint certes, mais sur un groupe, en m'appuyant aussi sur la compétence de un ou deux amis qui sont à Madagascar et qui vont regarder les locaux et qui sont là des relais pour moi, savoir qui est en forme et voilà. Donc, non, simplement aussi en donnant un objectif commun à tous, un objectif réalisable, encore une fois, le jour où le président Hamad a décidé de faire de qualifier par poule. On a eu cet objectif commun et que je pense réalisable, qui était de se qualifier à la CAN. Tout le monde y a cru. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce soit des locaux, que ce soit des expats, que ce soit des binationaux, des gens qui jouent en Arabie Saoudite, Égypte ou Algérie. Il y en a un qui joue aussi en Bulgarie, mais qui est blessé actuellement à Badanissé. On a tous cette même idée. Et après, pendant les rassemblements, on essaie de travailler au mieux. Voilà.
Alors justement, comment vous avez pris, on sait qu'on en a entendu parler du côté de Tana hier, et bah, tant pis si Étienne Moati est du journal L'Équipe, hein, de temps en temps, faut bien égratigner un peu. Ce titre hier, on va dire que le titre de l'article peut prêter à confusion. Les Réunionnais qualifient Madagascar. Et quand on lit cet article, on se dit que bah, finalement, un peu tout ça pour ça. Vous avez fait venir 5 joueurs issus de la Réunion, qui jouent donc pour les Baréa, mais ils ont tous des origines malgaches. Il n'y a rien de très original là-dedans. Il faut juste les trouver, les débusquer et leur permettre de venir.
En fait, le journaliste déjà a fait un bon article. Ensuite, il m'a téléphoné avant que l'article soit diffusé pour s'excuser du titre. C'est pas lui qui l'a mis, qui l'a décidé. Je trouve ça très maladroit et lui aussi. Il s'en est excusé et j'ai trouvé ça très maladroit. À Madagascar, ça a été mal vécu et surtout par mes joueurs réunionnais d'origine réunionnaise. Oui, effectivement, chacun des joueurs, que ce soit Métanier, Fontaine, Montbris, sont d'origine réunionnaise, mais ont des racines malgaches. Et eux jouent pour leur pays et pour leur racine. Donc ils n'ont pas aimé du tout. La première idée de tous, c'était de fermer les portes totalement à ce journaliste, pour être très franc et très clair. Et puis la deuxième, comme il s'est excusé en disant que c'était pas lui, bon, il faut qu'on réfléchisse. Donc voilà, c'est une maladresse, je pense, journalistique. Effectivement, il y a des Réunionnais. Effectivement, il peut peut-être y en avoir d'autres bientôt. Mais tous sont des origines malgaches. Et moi, j'ai appris en venant à Tana et de plus en plus que sur Diego, c'est au nord de l'île, hein, de la grande île.
Bien sûr.
Il y avait beaucoup de gens qui ensuite étaient partis sur la Réunion, sur les Réunions. Et il y a beaucoup de malgaches finalement mélangés à la Réunion qui viennent de Diego. Donc tous quasiment ont des origines sur Diego. des grands-mères, des grands-pères ou des arrière-grands-mères. Et voilà, et de toute façon, ils ont tous un passeport malgache. Voilà. Bon, c'est une erreur et je trouve une maladresse du journaliste en question.
D'autant que, encore une fois, vous êtes depuis 18 mois un sélectionneur africain. On ne connaît pas un sélectionneur en Afrique, mais c'est sans doute vrai partout dans le monde, qui ne va pas chercher le meilleur pour renforcer ses troupes. Et donc, dès lors qu'on peut avoir du sang malgache ou de quel que soit le pays, on a le droit de jouer pour ce pays-là. Non, finalement, vous avez fait votre boulot.
Ben, je pense. On a essayé de faire justement le plus sereinement, le plus tranquillement et le plus professionnellement possible. Voilà. Et le résultat est là. Et en respectant effectivement les locaux. Les locaux sont toujours présents dans le groupe, dans sa globalité. Alors qu'il y ait un local qui soit titulaire. Je prends l'exemple du Sénégal, il y avait un local, le gardien. Contre la Guinée au match aller, le latéral droit, puisque Métanir se mariait ce jour-là, était local. Ce week-end, puisque Fontaine était suspendu, un local a joué à sa place en défense centrale. Il n'y a pas énormément de locaux qui sont capables de jouer titulaire dans la sélection, c'est évident. Par contre, dans un groupe de 23, ils sont 4 ou 5, à tour de rôle, souvent, mais qui progressent au contact des autres. Et voilà, il n'y a pas de football professionnel à Madagascar, malheureusement. La plupart des bons joueurs malgaches sont amenés à partir de toute façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire local? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, voilà. Moi, mon idée, c'est de faire l'équipe la plus forte possible de gens issus et ayant des origines malgaches. Point. C'est tout. Voilà. Je me pose pas aucune question autre.
Avant de revenir vers Eric, on les cite. Romain Métanir, donc le défenseur de Reims, il a des arrières grands-parents qui sont malgaches. Les autres, il y a William Gros, l'attaquant de Vitré en National 2, qui est entré en fin de match. Fabien Boyer de Grenoble en Ligue 2 également. C'est quand même des renforts de poids dans une équipe pour Madagascar. Il était blessé. Et Jérôme Mombry, Grenoble, Ligue 2 lui aussi. Thomas Fontaine, lui, qui joue à Reims, était suspendu. Eric.
Non, bien
ça
sûr.
Ça me fait bondir. Bah,
non, mais moi, ça, ouais, je suis halluciné de voir des. Alors, le titre, peut-être que c'est le titre n'a pas été de lui et c'est bien dommage.
Oui, parce que l'article est plutôt intéressant.
Parce que l'article est intéressant et en fait, ça gâche tout. Toute l'approche de cet article est gâchée par ce titre. En fait, j'ai même pas compris la philosophie du titre parce qu'à ce moment-là, on peut s'attaquer à n'importe quelle équipe nationale. C'est-à-dire que c'est non, même pas oui, une histoire non, mais... d'Afrique ou de. C'est vrai pour toutes les équipes nationales. Donc je ne comprends pas l'approche, c'est ce qui m'a dérangé. Après, l'article est intéressant. C'est pour ça que c'est fou d'avoir un titre comme ça qui gâche tout derrière.
Naïm.
Oui, non, sur ce sujet complètement débile, parce que si vous piochez aujourd'hui dans toutes les sélections d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud, où vous avez des joueurs qui ne sont pas qui ont des origines lointaines et qui jouent pour d'autres pays, moi quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à Damien Perkis qui avait joué pour la Pologne. Donc vous savez, on peut prendre des Réunionnais pour jouer à Madagascar s'ils ont d'origine malgache. Mais juste pour revenir sur l'aspect footballistique, 30 secondes, coach. Vous entrez peut-être dans la période la plus compliquée là qui arrive, c'est-à-dire de maintenir un groupe sous pression 8 mois. Pour la compétition, parce que se qualifier,
c'est bien. Il reste deux matchs quand même, novembre et mars.
Ouais, donc la stratégie jusqu'au mois de juin. Alors il y a les deux matchs à préparer, mais ça, comment vous allez préparer cet événement, parce que c'est un événement pour Madagascar. Les autres qui se qualifient tous les deux ans, à la rigueur, ils ont l'habitude. Mais comment est-ce que vous avez déjà un plan de bataille en tête pour préparer le grand événement?
En fait, c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour nous, puisque nous avons peu de moyens finalement, Eric le sait. Mais en fait, déjà, nous avons deux matchs à jouer pour terminer la phase de groupe. Soudan en novembre, Sénégal en mars, ça suffit pas. Il faut qu'on regarde, j'ai pas eu le temps, je vous l'avouerai, qu'on regarde l'état de FIFA, savoir si on est capable de caler des matchs de préparation, des matchs amicaux. Ensuite, il faut qu'on réfléchisse avec mon préparateur physique et mon staff, comment anticiper 15 jours avant, je pense, le départ au Cameroun ou ailleurs, je ne sais pas, je pense que ce sera au Cameroun quand même. Voilà. Mais il y a beaucoup de travail. Je ne pense pas qu'avec les simplement deux matchs qu'on a à jouer, on puisse être prêt. Il faut qu'on est content d'être qualifié. Eric le disait, c'est historique, mais il faut pas qu'on soit ridicule. Il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait, dans le jeu, dans ce qu'on propose, parce que sans ça, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on soit sérieux. Moi, mon idée, c'est dès que je retourne en France, c'est-à-dire demain, avant de revenir à Tana mardi, c'est de regarder les dates FIFA et en revenant à Tana mardi, de proposer ça à la fédération, même si la fédération a un peu de moyens. Même si la fédération, on n'a pas ces habitudes-là de travail, en général, c'est plutôt on se satisfait de ce qu'on a et puis on attend, on ne sait jamais, on peut continuer à bien travailler. Non, moi j'ai envie de continuer à travailler, de continuer à évoluer, de continuer à progresser, de continuer à aller voir les joueurs. Peut-être qu'il peut y avoir des bonnes surprises dès la semaine prochaine. vous m'avez peut-être téléphoné une semaine trop tôt. Peut-être qu'il va y avoir un gros joueur qui va nous rejoindre. Je l'espère en tout cas. En tout cas, c'est bien avancé. Parce qu'on a encore besoin de 2-3 joueurs cadres pour encadrer tous ces jeunes. Parce que ça reste jeune quand même comme effectif, excepté Fanev et Bolide. Le reste reste jeune et on a besoin de cadres de Ligue 1, par exemple, en France, pour nous encadrer.
Il y a des élections à la Fédération là très prochainement. Ça peut changer les choses?
Oui. Bon, je me refuse de parler politique, ils appellent ça comme ça ici. Il y a des élections qui troublent en tout cas tout. C'est pour ça qu'on a travaillé en vase clos depuis maintenant une dizaine de mois. Parce que ben voilà, tout le monde se tire un petit peu dans les pattes. Et c'est aussi pour ça que la Fédé n'a même pas fêté notre qualification, nous a même pas offert un repas ou autre. Voilà, bon, ils sont tellement omnibilés par les élections, le président, par intérim, qui est pas président, mais président par intérim qui a remplacé la Madame Ad. Lui se représente sur ce poste, mais il y a 9 candidats. Et voilà, j'ai mes favoris, mais bon, on doit pas rentrer là-dedans. On attend. Je pense que ça, il y a plein de choses qui peuvent changer très rapidement.
Voilà. En tout cas, l'objectif.
On attend, en tout cas, les élections avec impatience, clairement.
L'objectif, en passant de 16 à 24, c'était évidemment de pouvoir inviter, de pouvoir qualifier des nations qui ne venaient jamais à la CAN. Vous êtes rentré dans ce groupe-là. Maintenant, l'objectif, c'est évidemment de prouver que ces nations invitées, qui se qualifient et qui sont nouvelles dans cette compétition, peuvent bien y figurer. Vous avez l'air, en tout cas, d'avoir plein d'idées pour que ça se fasse bien.
Ouais, mais vous savez, moi j'ai Amir Abdou, qui est un ami à moi, Eric a vu le match d'ailleurs, à Paris, Comores, Madagascar, en novembre 2017, oui. Dans un match de feu. Quand je vois Amir perdre à la 96e contre Hervé Renard, Maroc, sur un pénalty litigieux au Maroc, et faire match nul 2-2 au retour chez lui aux Comores, je me rends compte qu'il n'y a peut-être pas finalement beaucoup de petites équipes. Et ouais. Que
c'est quand en train on de changer, voit, nous, je le Burundi à la Mauritanie aussi. Hein.
Ouais, Corentin Martins qui arrive très bien. Ouais. Quand on nous voit faire 2-2 contre le Sénégal en ayant 65% de possession, voilà, donc ça me fait réfléchir et ça nous fait dire que finalement, en étant sérieux, en étant rigoureux, en étant travailleur et intelligent un petit peu, on peut peut-être arriver à remuer des montagnes, à bouger des montagnes, et on sait jamais, on peut peut-être en faire trembler quelques-uns.
La dernière question, elle est pour Étienne Moati.
Et on vous promet que si Madagascar gagne la CAN, on titrera Les Malgaches gagnent la CAN.
On peut rêver, mais bon, ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure, je mange avec eux, restons lucides quand même. Voilà. Mais ce serait bien qu'au moins le titre de la CAN, les Malgaches ont montré un beau visage à la CAN pour leur première participation. Ce serait déjà pas mal.
Et Nicolas Dupuis, vous savez, on a enregistré ce que vient de dire Étienne Moati. Donc, ne vous inquiétez pas, on sera là, vous et moi, pour le faire passer à la caisse le moment venu. On a été ravis de parler foot avec vous. Et nous, RFI, vous savez que la CAN, c'est important chez nous. Accueillir des nouveaux pays dans cette CAN, on ne sait pas encore tout à fait où elle se déroulera, mais on sait qu'elle aura lieu du 15 juin au 13 juillet. On sera ravis de vous y retrouver, Nicolas Dupuis. On vous félicite encore et on vous remercie surtout d'avoir été en direct avec nous.
Merci beaucoup. Merci Eric. À bientôt.
À bientôt.
Et merci à tous. Merci.
Bon vol retour. Bon retour chez vous pour quelques jours. On l'a bien compris. Il doit gagner plein de miles, lui, parce que c'est loin d'aller à Madagascar. C'est cool. Bon, en tout cas, c'était sympa d'avoir Nicolas Dupuis. On va passer à Titi.
Radio Foot International.
Olivier Prom.
Titi rentre chez lui, 41 ans, l'un des plus beaux palmarès du foot français et mondial. Je crois qu'on peut aussi le dire comme ça. Des teams qui sont champions dans plusieurs pays européens, champions du monde, champions d'Europe. Bref, conférence de presse hier. Donc il rentre à Monaco, là où il a été formé, là où il a joué pendant 5 ans, de 93 à 98. Son premier match, ce sera samedi à Strasbourg. On rappelle quand même le contexte, messieurs. Monaco est 18e à 4 points de Reims. À 4 points de Reims, j'aime bien le rappeler, parce que c'est quand même important de citer Reims régulièrement, qui est 17e. Pas un match gagné depuis le 11 août à Nantes. Ah, ça, oui, ah, ça, ouais. Forcément. Ouais. Nantes qui est juste derrière, qui est 19e, donc on peut relativiser la performance. ça fait 2 mois quand même. D'abord, un avis général. Ça vous inspire quoi? Tiens, je prends à ma gauche Étienne Moati, Thierry Henry. C'est une bonne idée?
Ça me réjouit. Et j'imagine ça que ça réjouit à peu près tout le monde dans le football français de voir Thierry Henry, qui, on vient de rappeler son palmarès, absolument une gloire de notre sport, un des joueurs donc dans l'histoire du football français les plus importants, descendre dans l'arène et prendre un club. Parce que celui-là, on s'y attendait finalement. Et quand il était joueur, c'était un des joueurs qui s'intéresse le plus au foot. Il regarde des matchs 24-24, il parle tactique, et c'est un obsédé, peut-être même un peu saoulant parfois, tellement il parle de football. Donc il est destiné, il était destiné à devenir entraîneur. Il devient aujourd'hui entraîneur dans le club qu'il a formé. L'histoire est belle, donc franchement, on a envie de voir ça.
C'est le cinquième des ex-champions du monde 98. Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Patrick Vieira, qu'il va croiser dans quelques semaines.
Il est pas loin.
Puisqu'il est avec Nice. Et il y a un Nice-Monaco, je crois, début décembre. On vous en parlera sur RFI. Voilà, c'est le cinquième. Pour vous, François David, bonne idée. Vous l'avez croisé, on en parlera tout à l'heure.
Du côté de Barcelone. On croise à Barcelone, légende du football français. Moi, ça me paraît une super idée. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce que Thierry Henry va coïncider avec le projet monégasque, un projet quand même particulier où on vend les joueurs chaque année. Lui, c'est un compétiteur, il va vouloir gagner tous les matchs, mais en tout cas au niveau de l'aura et vu d'Espagne, je vais vous dire, on parle déjà de Thierry Henry comme un futur coach au FC Barcelone dans les médias espagnols. Vous imaginez l'impact? Il n'a pas entraîné un seul match de Monaco, on en parle déjà d'un futur.
C'est déjà qu'ils sont mal au Barça en ce moment. Non, je plaisante. Eric.
Non, ouais, moi je suis très content de le voir arriver déjà pour le championnat de France parce que ça va relever un petit peu le niveau, même s'il a aucune expérience mis à part cette
adjoint de la Belgique, enfin du sélectionneur belge depuis 2 ans.
Mis à part l'expérience adjoint pour l'équipe de Belgique, mais voilà, faut bien commencer un jour. Est-ce que c'est pas mieux pour lui de commencer à Monaco parce que il y aura peut-être, même s'il est sous les feux des projecteurs, il y aura peut-être moins de pression pour lui parce qu'il est quand même à la maison. Donc on sera peut-être un peu plus indulgent, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai du mal à croire qu'il va rentrer dans ce projet monégasque, par contre, parce que là, c'est un projet particulier quand même. Hein, Leonardo Jardim, moi, je lui tire mon chapeau parce que franchement, subir ce qu'il a subi et se faire virer comme un malpropre, même si éventuellement c'est lui qui est parti, mais bon, ça reste quand même un petit peu déguisé. Il a avalé pas mal de couleuvres et il a été obligé de s'adapter à ce projet un peu chaotique qui finalement est voilà le classement de Monaco aujourd'hui est le résultat normal de ce projet monégasque au fur et à mesure de ces changements
quand
et de ses ventes. Voilà.
Quand on démarre donc sa carrière d'entraîneur comme tu viens de le dire et qu'on a à peine une expérience d'entraîneur adjoint. Commencer par Monaco, club qualifié encore en Ligue des Champions, qui la dispute. Mais c'est quand même pas si mal que ça.
Ouais, hein. Non, je dis pas ça par rapport au challenge de
c'est
Monaco.
C'est quand même une
je
chance pour lui.
C'est une chance pour lui parce que aussi, on sera peut-être un peu plus indulgent parce qu'il est du club, issu du cru.
Manuel Amoros nous dit ce matin, j'aurais pris plus expérimenté. Vous en pensez quoi, Naïm Manuel, vous?
J'en pense que Leonardo Jardim, il était pas plus expérimenté, à peine plus quand il arrivait à Monaco, qu'il a été champion de France et que ça a été un des meilleurs entraîneurs qu'on ait en Ligue 1 sur les dernières années.
Demi-finaliste de la Ligue des
Voilà, c'est demi-finaliste de Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Jusqu'à présent, les stars à Monaco, elles étaient sur la pelouse depuis l'arrivée des Russes. Aujourd'hui, elles sont sur le banc. Et ça, je pense que c'est aussi un tournant dans le projet de Monaco. Et puis, pour ce projet spéculatif qui est de vendre très cher les joueurs à peine arrivés, pour ça, il faut qu'il y ait des joueurs aujourd'hui, à part peut-être dans une moindre mesure, Ronny Lopez, mais qui est souvent blessé, qui vaut ne serait-ce que 50 millions. Ouais. 50 millions, Falcao a passé 30 ans avec des genoux en polystyrène, je suis pas sûr. Ouais. Donc, on va dire que le projet est entre guillemets allégé, sur les mois qui arrivent, ce qui va permettre à Thierry Henry de rebâtir un groupe, de lui redonner confiance, parce que la mission de Thierry Henry, dans un premier temps, c'est de faire de la psychiatrie et pas du football à Monaco. Et puis une fois qu'il aura retrouvé une équipe compétitive, si possible, qui sorte rapidement de la Coupe d'Europe, parce que je crois qu'ils sont pas faits pour être sur deux tableaux, peut-être qu'on aura, il aura
un ils peu sont déjà plus, pratiquement sortis.
Hein. Voilà, un peu plus de poids, qui pourra demander au président de conserver des joueurs un peu plus longtemps. Mais moi, je suis comme Étienne et tout le monde, je suis super heureux de le voir revenir en France.
Pour prolonger le débat, vous parliez de sa passion du foot, on pourra aussi
parce qu'il a l'obsession
l'aura qu'il a aussi pour les autres, c'est ce que vous vouliez dire François.
Ouais, et pour en avoir parlé moi directement avec Roberto Martinez qui était l'entraîneur de la Belgique, Thierry Henry était chargé.
Il en connaît du monde. Hein.
C'est incroyable.
Bah, c'est pour ça que je me suis assis à côté de lui.
Ouais, alors pour il a sa force, bon c'était lui il entraînait les attaquants et sa grande force c'est qu'il pouvait s'adresser aux joueurs directement et les joueurs comme Hazard, Lukaku, Raheem Mertens, ils baissaient les yeux face à Thierry Henry. comme vous disiez, Olivier, une espèce d'aura autour de son don, de ce regard, de cette performance. Et Henri, pour moi, et surtout avec les jeunes joueurs qui à Monaco, c'est le choix parfait.
Alors, on va l'écouter à trois reprises, parce qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. Puis Laurent Salerno, il faut bien qu'il bosse un peu. On a extrait trois passages de sa conférence de presse d'hier. Je vous propose d'écouter. Vous parliez de passion du foot. Hier, il a entre autres dit, quand on jouait avec Dédé, Didier Deschamps, et ZZ, Zinedine Zidane, on parle de quoi? Je vous propose d'écouter.
Ça serait bien. Non, c'est vrai que quand je vois Dédé ou quand je vois Zizou, en général, on essaie de parler. C'est bizarre parce qu'avant, on parlait de foot. Maintenant, on parle de coach. Quand on parle du match, c'est sur l'aspect tactique. Qu'est-ce que t'as voulu faire là? Qu'est-ce que t'as pas voulu faire là? Est-ce que ça a marché? Pas marché, mais chacun a ses idées, chacun sa façon de travailler. Mais c'est vrai que ça reste quand même un exemple pour tout le monde, surtout pour nous les Français.
Ça, il faut reconnaître que pour Patrick Vieira, on peut pas encore tout à fait dire, mais Didier Deschamps tout là-haut, Zinedine Zidane tout là-haut, un petit peu en dessous, mais enfin quand même pas mal. Hein, Laurent Blanc, un petit palmarès quand même, l'air de rien en tant qu'entraîneur. Il y a du risque pour lui, notre ami Thierry Henry. Il se lance dans le grand bain et les autres ont réussi.
Oui, mais je vois pas trop où est le risque, parce que Thierry Henry, c'est quelqu'un qui est, on l'a dit, donc passionné par le foot, qui en mange toute la journée et qui est passionné par la tactique. Et comme
il était consultant, même il y a encore quelques semaines, chez les Anglais. Donc
il a des vraies idées sur le jeu qu'il a pu d'ailleurs confronter, par exemple avec Guardiola, puisque donc il a joué à Barcelone et il a appris aussi beaucoup de Pep Guardiola. Et c'est quelqu'un, comme on l'a dit, qui a une aura extraordinaire. Donc comme Zidane par exemple, les joueurs donc ont un respect immense pour lui et vous gagnez donc déjà les trois quarts de votre vestiaire rien qu'en apparaissant. Donc je vois pas où sont les risques majeurs pour Thierry Henry.
Ça dure pas longtemps quand même. Laura, attention, il faut quand même qu'il ait des résultats.
Si jamais il se plante, vous perdez 4-0 à Monaco ce week-end,
les résultats vont.
Est-ce qu'on peut avoir du temps à Monaco?
Vont être important. Je pense qu'il aura du temps.
Le problème, est-ce qu'on peut avoir du temps à Monaco? C'est à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux aussi. C'est que si tu veux que ton projet spéculatif il marche et vende tes joueurs 60 millions, il faut qu'ils aient des résultats. Pour avoir des résultats, il faut laisser un minimum de temps à Thierry Henry, à lui ou à un autre. De toute façon, je crois pas aux entraîneurs miracles qui réussissent tout en 15 jours. Donc c'est pas possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui est bien avec Thierry Henry, il a peut-être pas d'expérience, mais il a une idée précise du foot, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il faut jouer, surtout de la manière dont il ne faut pas jouer. Et je pense qu'en plus, il va amener en Ligue 1 un style qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, c'est-à-dire un football très, justement, un peu à la barcelonaise.
Organisé. Alors on va y venir, justement. N'allez pas trop vite, David Manuel.
C'est mon problème. C'est mon problème, ça va trop vite.
Noël est arrivé. Pour autant, donc, alors on a vu les références et les copains avec lesquels il parle coach, comme il dit. Pour autant, ses influences, ses modèles, Wenger, évidemment, le jeu à la nantaise, Arribas, Suodo, Denwex.
C'est beau.
Et bien sûr, Pep Guardiola, dont il dit qu'il lui a réappris le foot à 30 ans. On écoute Thierry Henry.
Arsène Wenger a débloqué beaucoup de choses dans ma tête. Il m'a fait comprendre ce que c'est que d'être un vrai pro. Je n'oublierai jamais. Si on parle de Pep Guardiola, pour moi, c'est la référence. Quand j'étais au Barça, sous ses ordres, j'ai réappris le football. Vous pouvez parler avec Pep jusqu'au petit matin. Vous savez ce qu'il a inventé. C'est visionnaire. Maintenant, d'autres m'ont aussi inspiré. En France, c'est le jeu à la nantaise. Je pense à José Arribas, Suodo, Denwex. J'admire l'équipe de 95 qui a gagné le championnat avec 12 ou 13 joueurs issus du centre de formation. Ils m'ont inspiré avec ce football attractif à une touche de balle. Ils étaient vraiment en avance sur leur temps.
Pierre Le Guin, français, anglais, espagnol, et puis David Finzel, très à l'aise pour doubler tout ça. Comme d'habitude, il faut d'habitude 10 minutes pour doubler 30 secondes. Donc, tout y passe. Là, les modèles, tout le monde ne peut qu'acquiescer. Là, il nous cite quand même des valeurs sûres. Wenger, Denwex, Suodo.
Si je voulais provoquer, je pourrais dire que le jeu à la nantaise était le précurseur du Barça de Guardiola 13 ans plus tard, 14 ans plus tard. Maintenant, je pense moi que Thierry Henry déjà premièrement a eu des garanties sur ce qui va se passer. Peut-être au mercato.
Il les a demandé. Hein.
Il les a demandé. Il les a eu. Après, pour revenir sur Guardiola, il a été beaucoup plus marqué par Guardiola que par Frank Rijkaard. Il arrive la dernière année de Frank Rijkaard. Et moi, je m'en souviens toujours. On avait parlé quand c'était encore possible de voir les joueurs au Barça. Jamais j'ai autant couru de ma vie. Il jouait sur un côté. Et l'arrivée de Guardiola était pour lui un vent de fraîcheur extraordinaire. Effectivement, il parlait avec lui jusqu'à 2h du matin de football. Ça a été un des joueurs sur qui Guardiola, sa première conférence de presse, a mentionné disant ce sera un de mes joueurs les plus importants. Et effectivement, il a avec Samuel Eto'o et Lionel Messi, ils faisaient partie d'une attaque de feu. Et il a vu surtout aussi comment ça se passait au centre de formation du Barça. Il s'intéressait à la Masia. Il s'intéressait à tous ces jeunes qui venaient la première année de Sergio Busquets, qui venaient de la Masia. Harry dans la première année avec Thierry Henry et Pep Guardiola. Carles Puyol, il est très ami de Puyol. Il est très ami avec Eric Abidal, qui est le directeur sportif du Barça désormais. Donc on peut éventuellement penser qu'il pourrait avoir des passerelles entre Thierry Henry et le Barça dans les mois à venir.
Il est très ami avec François David, mais il est
non, pas encore.
Il n'est pas comme ça, François. Oui, non. Quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire François.
Il va peut-être récupérer des jeunes du Barça, peut-être aussi. On peut l'aider.
C'est possible.
Ça, il a les connexions pour. Parlons plan de jeu. C'est quoi le plan de jeu? Bon, Laurent Salerno, allez, hop, on y va sur le plan de jeu.
Ce qui te sécurise en général, c'est ton plan et tes concepts quand tu vas sur un terrain. Après, l'animation, des fois, peut ou ne pas arriver. Mais si tu connais les principes de base, quand on va jouer bas, au milieu ou dans les 30 derniers mètres, en possession ou pas en possession, après, il faut être un peu plus, libre au niveau de la tête, avoir plus de confiance. Mais ce qui te donne la confiance en général, c'est de savoir ce que tu vas faire ou ce qu'il y a à faire quand on rentre sur le terrain. Déjà, ça sécurise et avoir un bon équilibre. Après, il faut gagner. Ça, c'est clair.
Je me demande s'il n'aurait pas été plus clair en anglais, quand même.
C'était simple.
Hein, on perd le fil. Ce qui compte, c'est de gagner. Bon, la fin, c'est clair, mais si, finalement, tout est basé sur la confiance. Il faut redonner confiance à ce groupe-là.
Je pense que l'idée de Thierry Henry, c'est que d'abord, il y a une situation qui est une situation d'urgence. Donc, il faut d'abord essayer de remonter au classement et que le plan de jeu, finalement, il viendra sans doute un tout petit peu plus tard. Il faut d'abord reprendre une assise défensive. Il faut sécuriser un peu cette équipe parce que pour l'instant, elle est en train de glisser quand même dangereusement et qu'on a connu des grandes équipes qui ont fini par descendre en fin de saison quand tout part en vrille, Monaco notamment. Donc, il faut d'abord sécuriser tout ça et ensuite, peut-être, il pourra penser à ce que lui a expliqué Guardiola et mettre un petit peu en place des choses plus ambitieuses.
Le mouvement, je pense que quand ce sera effectivement, comme dit Étienne, dès qu'il aura un peu plus de points au compteur, qu'il sentira les joueurs un peu plus en confiance, que le ballon boulera moins les pieds, la recherche du mouvement perpétuel. Voilà, ça c'est l'école nantaise, c'est l'école du Barça, c'est l'école de Guardiola. L'occupation de l'espace rationnel, tout ça, Thierry Henry va le mettre en place.
Et puis il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que bon, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a effectivement un secteur défensif qui est pas terrible à Monaco avec une charnière centrale broc-ballante et un latéral droit qui joue à gauche. Mais au milieu et devant, vous avez quand même des joueurs de ballon. Je parlais de Ronny Lopez tout à l'heure. Il y a Tillmans, vous avez Falcao, bon, Jovetic, il est souvent blessé. Mais
Tillmans, il l'a eu pendant 2 ans.
Vous avez quand même des mecs qui savent jouer au ballon. Donc l'idée de mettre, de faire ce que fait Guardiola ou le FC Nantes, ou en tout cas essayer de s'y approcher avec un jeu de transition, une possession et mettre beaucoup de mouvements et de joueurs adverses dans les 30 derniers mètres de l'équipe d'en face, c'est faisable. C'est faisable. Mais pour moi, mon vrai souci à Monaco, c'est, alors oui, il faut se renforcer, c'est une chose, mais il faut surtout sortir rapidement de la Coupe d'Europe parce que cet effectif ne peut pas jouer sur 2 tableaux toute l'année. Donc, à partir du moment où ils retrouveront un rythme normal, un calendrier à 1 match par semaine avec éventuellement des renforts derrière, moi, je pense que ça peut matcher parce qu'il y a quand même globalement du talent dans cet effectif, hein. Je pense qu'il y a plus de talent en effectif de Monaco qu'à Marseille, à mon avis. Donc, je pense qu'il est pas embêté non plus avec ça.
Monsieur Rabé, on est d'accord, on est tous contents de le voir venir tenter sa chance et en plus à Monaco.
On est content et puis même dans le discours qu'il a là, on sent aussi qu'il a envie d'alléger un petit peu les esprits et de cette spirale un peu négative qui est installée depuis le début de saison, mais oui, c'est vrai, quasiment depuis le début de saison. Et il a envie de il a dit qu'il essayait de mettre en place des choses, de donner des certitudes, d'alléger un petit peu l'esprit pour que il y ait un peu plus de liberté, de relâche au niveau du jeu pour retrouver la création et puis l'efficacité.
Et puis c'était une bonne première journée parce que la conf, quand on en extrait ne serait-ce que ces 3 parties, ça veut dire qu'il a dit beaucoup de choses et ça c'est plutôt bien. Ouais. Et puis il y a eu cet échange assez surréaliste avec Ali Benarbia en peignoir. Ali Benarbia, ancien joueur de Bordeaux, champion de France avec Bordeaux, Monaco, il a joué au PSG. Effectivement, ils se sont connus, ils ont joué ensemble et on voit passer Thierry Henry impeccable, propre comme un sous-neuf. Et alors tout d'un coup, il y a Ali Benarbia qui est en train de faire une cure de thalasso à Monaco. Il a bien le droit, en peignoir. Et les deux hommes, comme ça, échangent. C'était assez rigolo. Ça peut donner le ton. En tout cas, on est impatients de voir ça. Rendez-vous samedi, 18h, temps universel, du côté de Strasbourg, à la Méno, pour les premiers pas de Thierry Henry comme entraîneur de Monaco. pense qu'Étienne Moati ne peut retenir une larme tant cette chanson lui rappelle des souvenirs. Il a tant dansé sur les démons de minuit.
Mais je continue d'ailleurs.
Mais bien sûr,
tous les samedis soirs.
On le sait, il y a des documents. En tout cas, c'était le chant, l'un des chants des supporters. Alors Eric Rappé-Sandratana qui commente avec notre ami Bruno Salomon tous les matchs au Parc des Princes et ailleurs, partout dans le monde, sur France Bleu, est habitué. On a choisi ensemble, hein, d'ailleurs, sur des propositions de Laurent Salerno, qui avait toute une compile. Étienne, vous vouliez dire quelque chose?
Non.
Je vous ai vu me faire un petit geste, non?
Ouais, je vous fais un petit geste, parce que quand on va évidemment maintenant aborder donc la question du Paris Saint-Germain et oui, ses problèmes de supporters, et ben, l'UEFA a communiqué.
Ah! Alors attendez, je plante le décor et vous nous dites, pourquoi on parle de ces supporters? Ben, parce que on va reparler de PSG Étoile Rouge de Belgrade. Ça a fait 6-1, c'était en Ligue des Champions le 3 octobre dernier. On a entendu parler des soupçons de corruption. On a appris aujourd'hui d'ailleurs que le défenseur du club serbe était un certain maître Éric Dupond-Moretti. Moi, je pensais qu'il était devenu comédien, mais apparemment il est bien toujours avocat et il est un peu partout. Là c'est le volet supporter qui nous intéresse sur ce match, ou plutôt moi je vais employer ce terme, c'est naze qui quittent le parc avant la fin d'un match pour lequel ils ont payé d'ailleurs, et pour aller se friter avec des supporters du club adverse, en l'occurrence des Serbes. Le club risque gros, peut-être un huis clos. L'UEFA planchait ce jeudi sur la question, et si la réception de Naples, mercredi prochain, se passait devant personne, ce qui ennuierait beaucoup d'ailleurs Frédéric Eric Suto et Thomas de Saint-Léger, qui doivent commenter cette rencontre sur RFI. Ils préféreraient, eux, qu'il y ait de l'ambiance. Qu'en sera-t-il, donc, Étienne Moati?
Écoutez, pour le match contre Naples, il ne se passera rien, puisque l'UEFA vient de rendre sa décision et que, pour le moment, ils poursuivent les investigations. Donc, Paris Saint-Germain n'est pas tiré d'affaire, mais donc il va y avoir une enquête plus approfondie qui va être menée donc sur les troubles assez importants qu'il y a eu un petit peu dans le stade, mais surtout en dehors du stade, où il y a eu des violences donc de supporters du Paris Saint-Germain qui cherchaient un petit peu en découdre avec ceux de Belgrade. Et donc l'enquête va se poursuivre et il y aura vraisemblablement une décision sûrement assez sévère contre Paris Saint-Germain, mais pas tout de suite.
Parce que le Paris Saint-Germain est quand même dans l'œil du collimateur. Alors il y a l'histoire du fair-play financier, là ça n'est pas la question, mais enfin on a vu qu'il y avait des sanctions qui pouvaient être terribles. Rubin Kazan vient d'être suspendu un an par l'UEFA de toute compétition européenne. On sait qu'il y a eu des histoires de fumigènes, on va reparler de ces fumigènes, c'était contre le Real Madrid. D'ailleurs, c'est pour ça que la tribune des supporters était fermée, ils avaient pris un huis clos partiel. Mais là où on a du mal comprendre, très honnêtement, c'est que les dirigeants parisiens, ils sont arrangés pour que ces supporters dont la tribune était fermée récupèrent des places ailleurs dans le stade. Et finalement, ils étaient bien là. Alors c'est super pour l'ambiance, mais c'est pas sûr que ce soit super pour le club.
Ils sont bêtes, parce qu'évidemment que dans un match comme ça, quand tu fais revenir les supporters, ils vont s'exprimer, se manifester. Donc le club va être... D'abord, le club est victime, responsable de ses supporters. Ils sont victimes dans un premier temps, parce que quand il y a un huis clos, même partiel, c'est eux qui en sont la victime. Et en plus, ils sont aussi coupables parce qu'ils les font rentrer. Et en plus, ils sont en situation de récidive. C'est là où ils sont crétins sur toute la ligne et où, pour moi, le club a difficilement des excuses, parce que quand vous les faites revenir une fois pour qu'il y ait un peu d'ambiance dans le stade, parce que faut pas que ça ressemble trop à un musée et que les mecs ils redébordent, et ben vous les dégagez une bonne fois pour toutes. Les supporters de Paris, il faut parler d'eux depuis le début de l'année. C'est pas géré par l'UEFA, mais en Ligue 1 ils ont pété une aire d'autoroute en revenant de Rennes. Même si c'est pas géré par l'UEFA, ça donne le ton et ça se sait. Depuis le début de l'année ils font chier. Donc le PSG qui les fait rentrer dans le stade, il a tort sur toute la ligne. Alors, est-ce qu'il y aura huis clos partiel, total? On poursuit l'investigation. Bon, quand bien même ça serait partiel, c'est déjà de trop, parce qu'ils sont entièrement responsables de ce qu'ils font.
Alors, avant, il y a quelques années, ils étaient là et c'était quand même le bordel. Il y a même eu des morts, en tout cas au moins un. Alors on s'est passé deux. Et puis finalement, le parc était tellement triste qu'on les a fait revenir. Voilà, alors c'est sûr qu'il y a, de l'ambiance. Bon, on peut pas dire que les chants, ils ont vraiment embauché des paroliers. Hein. C'est quand même assez basique, hein. On l'a bien vu. Laurent Salerno me dit, moi j'écoute ça en boucle chez moi, je comprends pas bien. Mais enfin bon, c'est son choix. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'ils sont là? On va pas les réinterdire. Qu'est-ce que peut faire le club de Paris? Puis on verra après ce qui se fait ailleurs.
Ouais. Il commence déjà à la réinterdire. Donc depuis les incidents qu'il
y a, oui, contre, il y en a eu 33 Belga, qui ont été exclus.
Il y a 30 qui ont été exclus. Et c'est vrai que c'est un risque qui a été pris par le Paris Saint-Germain. Donc plus globalement, donc après avoir fait la chasse aux supporters extrémistes qu'ils avaient dans les tribunes, bon, ils ont permis donc un peu un retour de ceux-ci. Mais on voit bien qu'il y a des problèmes qui restent. Et puis, pas simplement au Paris Saint-Germain, parce qu'on stigmatise toujours le Paris Saint-Germain autour de ça. Le football français, il a aujourd'hui la palme des troubles en Europe. Parce que
Lyon a joué à huis clos.
Lyon a joué à huis clos. Marseille a joué à huis clos. Donc, à huis clos, 7 saisons donc, en Ligue Europa.
Saint-Etienne a aussi des tribunes fermées.
C'est un record. Aujourd'hui, on est recordman d'Europe, donc des huis clos en Coupe d'Europe. C'est quand même
c'était
un peu
C'était comment votre temps? C'était de la période où c'était chaud quand même au Parc?
C'était chaud, ouais, mais bon, c'était une autre époque.
Donc les résultats étaient tellement phénoménaux.
Tant que ça gagnait, ça allait.
Non, mais c'était une autre époque. On peut pas comparer. Mais ce qui est hallucinant, c'est quand même que il y a tous ces matchs. On regarde Paris-Marseille, par exemple, où il y a pas de déplacement des Marseillais. Il y a pas de tous les supporters un peu chauds n'ont pas le droit de se déplacer en France. Et à l'arrivée,
il se passe quand même des choses.
Il se passe des trucs. On se dit, mais est-ce que les supporters ne comprennent pas, ou est-ce que les instances qui dirigent le football, même qui encadrent ces déplacements-là, n'ont pas intérêt à laisser, mais encadrer, prendre des mesures. Parce que là, il n'y a pas de mesures de prise. On a organisé l'Euro il n'y a pas longtemps. On a été capable de gérer des déplacements de supporters étrangers donc c'est quand même qu'on a la capacité de gérer ça. C'est sûr, mais je veux dire, il y a un problème de on rejette la faute et on se dit, on fait pas de déplacement comme ça, on est tranquille. Mais non, à un moment donné, faut prendre une décision et encadrer ses supporters pour que les choses se passent bien.
Comment ça se passe au Barça? Bon, vous me direz, il y a pas une ambiance non plus, hein, contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas non plus youplaboum. Pourtant, c'est quand même le Barça.
Ouais.
Mais il y a une politique.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003, quand Joan Laporta arrive comme président, la première de ses décisions était de couper la tête au Bojoyce Noise. C'est d'ailleurs les garçons durs en catalan. C'est le groupe ultra hyper violent qu'il y avait. Ils l'ont coupé la tête, ce qui lui a valu d'ailleurs des menaces de mort, des descentes dans sa maison. Mais au moins, il a fait le travail. On trouve par-ci, par-là, quelques membres. Mais bon, ils sont tellement isolés, éparpillés, que ça se voit pas. Le Barça a fait une tribune pour les jeunes. Bon, ils essaient de contrôler un petit peu ce qui se passe. Au Real Madrid, en revanche, Florentino Pérez a pas eu le courage peut-être de couper la tête aux ultras sourds, un groupe d'extrême droite très dangereux et qui a provoqué déjà des incidents. Mais avec le Barça et le PSG, c'est passé déjà, hein. Il y a eu des altercations il y a 3 ans, je crois, en dehors du Camp Nou, avec des supporters français qui ont été agressés. Donc le problème existe, mais au moins au Camp Nou, il n'existe plus.
Alors il y a aussi ces problèmes de fumigène. Il nous reste une petite minute pour l'évoquer, parce que moi ça me sidère toujours, tous ceux qui sont sur les stades, c'est censé être interdit. On est tous fouillés, surfouillés. Quand vous allez au parc, c'est un truc de dingo. Vous avez 4 contrôles. Ouais, on n'est pas chez le gastro, mais on pourrait presque y être. Bref, et pourtant, il y a des types qui arrivent à passer avec des fumigènes et qui savent que ça va être sanctionné, qu'il va y avoir une amende. Alors à Paris, on a de l'argent, on s'en moque, mais il y a d'autres dans d'autres clubs. C'est quoi cette histoire de fumigène? J'ai vu que la ministre Roxana Maracineanu, la ministre des Sports française, était prête à étudier des nouveaux fumigène
chaleur.
Ah voilà, c'est ça, qui continue à faire de la fumée, hein, c'est le but du jeu, mais sans chaleur.
Bon, moi j'aime bien les fumigènes
les
dans
le stade,
faut pas que ce soit dangereux. Moi j'aime bien parce que ça met de l'ambiance, mais ça fait partie du folklore, mais faut pas que ce soit dangereux. Alors c'est sûr qu'il faut encadrer, toujours pareil, hein, qu'il faut encadrer et mesurer, mais de toute façon, si les fumigènes rentrent dans le stade, c'est qu'il y a complicité quelque part, parce que c'est pas possible avec les foot qu'il y a, forcément il y a une complicité.
Les fumigènes peuvent être extrêmement miniaturisés aujourd'hui, hein. Et c'est
d'accord.
Plus compliqué que ça forcément de les détecter. Et sur l'idée que les fumigènes c'est beau pour le spectacle, je suis d'accord là-dessus, mais ça reste forcément dangereux.
C'est sûr.
Voilà, on a abordé le sujet. C'est un sujet sans fin. On en reparlera bien sûr des supporters. Heureusement qu'on a parlé foot. Amada qui fait la fête et avec Thierry Henry qui fera sans doute la fête. On lui souhaite en tout cas. Merci à Laurent Salerno d'avoir découpillé tout ça. Et merci à David Finzel d'avoir lui goupillé tout ça, parce que c'est important de le dire. On se retrouve très vite demain. C'est un